Merci Marc, c'est un plaisir d'être là. Et quand Marc m'a invité pour une question comme celle-là, comment est-ce qu'on va faire ou parler sur les aspects sociaux, je me suis dit, qu'est-ce que je vais expliquer? Mais il y a une leçon que j'ai apprise, c'est de, si je reste dans mon domaine et je vous explique ce que moi je fais, c'est à vous de décider après d'en faire au niveau global. Là, j'avais montré le titre à une copine parisienne qui me dit, mais c'est quoi ce titre? Parce qu'il y a une négation dans ce titre, mais je lui ai répondu que j'ai 45 minutes à essayer de vous expliquer ce qui est derrière. Donc je vais parcourir cinq thèmes différents, notamment pour, comme je les vois au sein du laboratoire, pour enfin, et puis après sortir de ce laboratoire et vous poser la question, comment va-t-on faire? Je vais vous présenter ces cinq thèmes, même si les chiffres sont un peu, c'est pas imaginaire, mais j'ai fait des calculs vite fait, donc on verra bien où on va arriver. Et puis j'ai mis les mots que je déteste, en fait, un mot comme médecine personnalisée, j'en ai horreur. Mais ça, c'est pour la discussion après. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Commençons par le cancer du sein. Donc la première partie, là j'ai les chiffres pour la Belgique, et c'est en Belgique, il y a à peu près 10 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Ça atteint les jeunes femmes à partir des années de 35 ans, mais ça atteint surtout les femmes plus âgées à partir de 50-55, ça monte assez vite, tandis que le nombre de cancers de l'ovaire est bien plus bas. Même si le cancer de l'ovaire est plus mortel, le nombre est plus bas. Donc voilà le premier chiffre, on en est à peu près à 10 000, donc en France, ça doit faire quelques 50 000 cas par an en cancer du sein. C'est quoi un cancer? Vous le savez, un cancer est toujours génétique, c'est-à-dire on a toujours besoin d'une mutation dans une cellule pour qu'il y ait un cancer, mais ça ne veut pas dire que le cancer est héréditaire. On ne va pas inhériter le cancer. Donc la plupart des cancers vont toujours être sporadiques, c'est des accidents, c'est des choses qui arrivent à quelqu'un, comme vous l'avez dit, riche ou pauvre, on n'est pas à l'abri du cancer. Et le cancer, finalement, a un risque cumulatif, le cancer du sein, de 1 sur 10, 1 sur 9,5, 1 sur 10 des femmes. C'est un risque cumulatif, c'est à l'âge de 80 ans, 1 sur 10 parmi les femmes seront atteintes d'un cancer du sein. Et ce qui est intéressant, c'est parmi ces cancers, dans 5 à 10%, on constate un contexte familial, c'est-à-dire il y a eu d'autres cancers dans la famille. Donc là, je veux dire qu'on est loin d'avoir des cancers familiaux, mais il y a des cas où il y a apparemment une histoire familiale de cancer. Et en fait, ce qu'on hérite, ce n'est pas le cancer, mais c'est la susceptibilité d'avoir des cancers plus que quelqu'un d'autre qui est à dépister dans ses familles. Donc voilà qu'il y avait une grande nouvelle il y a 15 ans, non, oui, plus que 15 ans maintenant, ça va vite, hein, le temps, quand les gènes BRCA1, BRCA2 ont été identifiés. Et là, je m'excuse si je vous montre trop de chiffres, mais je pense que dans certains cas, les chiffres sont assez intéressants. Donc, il s'agit de deux gènes qui donnent une prédisposition très élevée au cancer du sein, cancer de l'ovaire. Et quand vous voyez là, le risque d'avoir un cancer à l'âge de 85 ans, comme je vous l'ai dit, dans la population générale, est de 1 sur 10. Si on porte une mutation dans un de ces gènes, ce risque monte de 1 sur 10 à 8 sur 10, à 80%. Les chiffres varient selon les études, mais c'est sérieux de passer de 10% à 80%. Si votre salaire monte dans ce sens-là, ça vous fait plaisir. Dans l'autre sens, ça fait mal. D'accord? Et si les impôts vont dans ce sens-là, ça fait mal. Donc voilà que si on pourrait dépister ces gènes-là, on pourrait identifier les personnes avec ce risque super élevé. Il y a un problème pratique, c'est que ce sont deux grands gènes, des gènes qui sont relativement grands, et que le dépistage, le séquençage de ces gènes-là est assez laborieux et coûte de l'argent. Et on pourra parler de l'argent après, mais ce n'est pas simple de dépister les gènes, surtout que parmi ces gènes-là, on ne peut pas prédire chez quelle personne on trouvera quelle mutation. Donc il va falloir séquencer les deux gènes du début à la fin, et ça coûte, disons, quelques 1 000 ou 2 000 euros ou 2 000 euros, comme vous voulez, ça change de temps en temps. Donc voilà, pour en faire une économie, ce qu'on va faire, c'est ou bien on dit il y a ces 10 000 cancers par an, on va tous séquencer, et on aura un taux de détection d'à peu près 1 à 2% de cas positifs. Donc on va passer un temps immense au sein du laboratoire à séquencer de l'ADN des patientes pour en trouver 1 à 2 à la fin de la série. Ce qui fait de la frustration chez nous au sein du laboratoire, où les techniciennes viennent me dire « mais on n'a jamais de positif », et ce qui fait surtout au plan économique, qui fait passer du fric, quoi. Donc voilà qu'il y a moyen de choisir les cas et de dire on va faire le séquençage que dans les cas où on a une chance élevée de trouver quelque chose. Et c'est ce qui est indiqué dans la deuxième partie. Si on fait l'action à la base de la constellation familiale de cette tumeur, on peut augmenter le taux de détection qui montera par exemple jusqu'à 10 ou 15%. Donc là, on aura quand même 10 ou 15% de cas positifs si on fait le dépistage au sein du laboratoire. Et là, tout se fait à base du contexte familial. Et encore des chiffres, c'est pour ça qu'on a besoin de diapositives. Nous, autres, on montre trop de chiffres. Mais là, même si le tableau est compliqué, je pense qu'il va nous expliquer ce qui est derrière. Vous voyez là le risque dans la population générale pour avoir un cancer du sein. Et comme je vous l'ai dit, à l'âge de 80 ou 85, ça monte à 1 sur 10. Mais à l'âge de 35 ans, c'est encore assez bas. Là, on est à 3 sur 1000. Donc ça, c'est la courbe naturelle. Si votre mère a eu un cancer du sein entre 40 et 50 ans, votre risque va être élevé, vous le sentez, mais il n'est pas extrêmement élevé. Il est presque doublé. Donc ça vous met un peu mal à l'aise, mais ce n'est pas le moment de paniquer s'il n'y a que votre mère qui a eu ce cancer du sein. Mais s'il y a, à part ça, votre mère, vos grands-mères et une tante qui ont eu ce cancer du sein, là, ça monte assez haut. Là, ça commence à bouger. C'est-à-dire, là, vous avez 30% au lieu de 10% d'avoir un cancer à l'âge de 80. Et déjà, à l'âge de 35 ans, les risques sont considérables. Vous ajoutez une nièce, une cousine, une tante qui est dans les hospices de Beaune ou je ne sais pas où. Ça monte encore un peu, mais comme elles sont plus loin côté génétique, ça va se niveler. Donc finalement, vous allez atteindre un risque qui est élevé de 40%, par exemple, dans ces familles-là. Si on regarde maintenant le risque pour quelqu'un qui porte une mutation, et ça, c'est la dernière colonne, on regarde maintenant le risque pour quelqu'un qui porte la mutation, vous voyez que là, les chiffres sont doubles. Et c'est pourquoi? Pourquoi de la dernière colonne, les chiffres ont doublé vis-à-vis de la colonne précédente? Parce que dans ces cas-là, on a identifié dans ces familles les femmes qui portent les mutations et éliminé celles qui ne portent pas la mutation, puisqu'on parle d'une mutation dominante. Donc après le dépistage, on a identifié les personnes à haut risque et les autres personnes qui n'ont pas la mutation familiale se retrouvent dans la première colonne qui est celle de la population générale. Donc voilà le but du dépistage, on va essayer de trouver d'abord la mutation familiale et puis trouver dans la famille celles, les personnes qui portent le risque vis-à-vis ceux qui n'ont pas le risque. Voilà ce qui est derrière. Et en bas, ce qu'il y a, c'est la chance de trouver une mutation dans ces groupes. Donc dans les familles à haut risque, on a 30% de chance de trouver une mutation dans BRCA1, BRCA2. Si on diminue cette sélection, on va aller jusqu'à 10%. Mais c'est vrai que dans la population générale, oui, il y a 2 personnes sur 1000 qui portent une mutation et qu'on ne va pas dépister si on ne fait pas le séquençage chez tout le monde. Donc voilà le problème pratique. Donc en pratique, la plupart du temps, c'est cette personne-là qui n'est non atteinte qui se rend à l'hôpital parce que sa mère est décidée, elle a une tante qui a eu une tumeur, maintenant c'est sa cousine, puisque sa cousine, à son âge, ça devient chaud et tout d'un coup, elle veut tester. Ben, on va lui répondre, on ne va pas commencer chez vous, on va d'abord tester votre cousine ou votre tante, essayer de trouver la mutation et après vous revenez et on va vous offrir le test. C'est comme ça que se fait le dépistage maintenant. Et l'avantage là avec les technologies de séquençage à haut débit, on peut faire davantage d'échantillons, on a diminué le prix en dessous de 1000 euros par analyse et on essaye de dépister à haut débit, même si les délais sont encore considérables dans certains laboratoires. Là, je suis fier que chez nous, à Leuven, on est à deux mois maximum pour le dépistage, qui est fort quand même. Mais Il y a d'autres défis, c'est pas simple du tout. Mais on a, ça bouge et je pense que du côté technique, les laboratoires aussi en France sont prêts à dépister davantage de femmes avec des cancers du sein. Juste pour vous donner quelques idées là sur les chiffres, à Leuven, au sein de notre centre, on est à 3000 familles maintenant. Et dans ces 3000 familles qui ont été analysées, on trouve des mutations chez à peu près 370, je reste en Belgique, de cas positifs. Donc on reste au-dessus de ces 10%, mais ça veut dire qu'on a renvoyé des patients, qu'on a refusé le test à certaines familles où peut-être il y a une mutation. Ça, c'est parce qu'on fait le bilan économique. Évidemment, la raison pour le faire, c'est que, comme je vous ai dit, le risque est tellement élevé, donc c'est les porteurs du cancer du sein, BRCA1, BRCA2, ont ce risque-là élevé, le même risque dont je vous ai parlé tout de suite. Et là, je cite juste cette étude française qui a regardé a posteriori que font les femmes après avoir été testées. Donc là, c'est une étude... Je ne sais pas si elle était faite ici à Lyon, c'est ça? Je ne sais plus. Et donc, vous êtes peut-être mieux au courant que moi, mais en fait, ce qu'ils ont regardé, parmi à peu près 100 personnes qui ont été testées et qui étaient positives, c'est-à-dire des personnes avec des mutations, vous voyez que là, qu'il n'y a que 7 sur ces 101 qui ont choisi pour une mastectomie. Les autres ont préféré de ne pas faire de mastectomie. Et parmi les 7 qui sont là au-dessus, il y a plus que la moitié qui a aussi fait l'ophorectomie, c'est ça? En même temps. Donc il y a un groupe de femmes qui veut vraiment aller loin dans la prévention, mastectomie, ophorectomie. Et dans l'autre sens, parmi celles qui ne choisissent pas la mastectomie, il y a quand même une petite partie qui fait l'ophorectomie pour des raisons différentes. Une des raisons, c'est que c'est pas plus mortel. L'autre raison pour ne pas y aller tout de suite, c'est qu'on veut quand même avoir ses enfants, avoir d'enlever les ovaires. Et puis après, il y a ceux qui font les MRI ou la mammographie, et là, vous voyez en bas qu'il y en a même qui s'en foutent complètement, qui ne font rien du tout. 6 sur les centres. Donc c'était bien d'avoir ces informations, mais ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose quand on a l'information, quand on a fait le dépistage. Voilà la première partie de mon topo, c'est-à-dire on a le dépistage en cancer BRCA1, BRCA2, on peut l'offrir, mais il y a des limites économiques là-dessus. Quelles sont les limites économiques? Il y a toutes les autres maladies. Il y a tous les patients qui ont des maladies rares, qui eux aussi, que ce soit les patients ou les parents, qui veulent être servis. C'est-à-dire là aussi, on fait du dépistage, on fait du diagnostic moléculaire, on fait des analyses génétiques, que ce soit les anomalies chromosomiques, comme le syndrome de Down, que ce soit des délétions au niveau des chromosomes comme le D. George, ou que ce soit le nanisme qui est le résultat d'une mutation ponctuelle dans le gène, tous ces patients-là ont droit aussi au diagnostic moléculaire. Ils n'ont pas le cancer, souvent ils ont des maladies non traitables, mais il faut un budget pour les servir. Et ils sont nombreux. Il y a à peu près 3 millions de patients avec une maladie rare en France. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire les deux. Déjà, le titre, j'espère que c'était un peu dans ce sens-là. Surtout, je vous l'ai dit, là, c'est juste un schéma qui donne le nombre de maladies rares pour lesquelles les gènes sont connus et pour lesquelles les tests sont disponibles. Et à peu près 3000 maladies différentes, dont certaines sont super rares, mais pour lesquels le test est disponible. Et chaque jour, on en sort encore. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette masse de diagnostics moléculaires qui se fait dans un domaine qui n'était pas lié au cancer. Et je vous donne l'exemple de la mucoviscidose, puisque c'est le plus fréquent, vous le connaissez, et où on a déjà passé un temps immense, non seulement pour trouver le gène d'abord, pour faire le dépistage, pour faire le diagnostic, mais aussi pour voir si ça vaut la peine de tester tout le monde. Donc la mucoviscidose, elle a une fréquence d'à peu près 1 sur 3000, 3500 en Europe, en moyenne. Ça veut dire que comme c'est une maladie récessive, ça veut dire qu'une personne sur 30 est porteur. et que on pourrait l'offrir, on pourrait faire un test pour confirmer un diagnostic. On peut utiliser le même test génétique pour dépister les porteurs. Et puis, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de tester tout le monde? Est-ce qu'on va tester tout le monde? Je vais indiquer comment on pourrait faire ça pratiquement. Donc là encore, un schéma du gène. Donc là, vous voyez le côté, disons, schématique d'un gène avec les exons, les introns. Et ce que vous voyez là, c'est toutes les positions auxquelles on a trouvé des mutations faux sens, des mutations non sens, donc des mutations qui inactivent le gène. Et chaque patient aura deux mutations. Une mutation sur le gène paternel, une mutation sur le gène maternel. Donc, simplement dit, pardon, il y a 1000 façons pour inactiver le gène mucoviscidose. Et chaque patient aura une combinaison de deux mutations. Heureusement, dans le cas de la mucoviscidose, quand on fait le registre de toutes les mutations connues, il y a une mutation qui est super fréquente, c'est-à-dire sur 3/4 des chromosomes dans les patients avec la mucoviscidose, on retrouve la même mutation. Et puis ensuite, il y a quelques mutations qui sont plus fréquentes, mais très vite, on en tombe à une moyenne de mutations assez rares. Je l'indique parce que ça nous permet de deviser des tests qui sont nettement moins chers, nettement plus simples que l'analyse complète des BRCA1, BRCA2 dans d'autres cas. Et donc avec des tests assez simples maintenant, qui ne vont pas coûter 1000 euros, mais plutôt 100 euros, on pourra faire le dépistage. Et encore, là j'insiste sur le fait que pour le diagnostic clinique d'un patient mucoviscidose, on n'a pas besoin d'un test ADN. Ça va vous étonner que quelqu'un qui fait sa vie dans le diagnostic moléculaire vient vous dire non, on ne va pas faire le test. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Si on fait le diagnostic à la base des signes cliniques, à la base d'un test biochimique, ça suffit pour diagnostiquer. Mais si on veut voir ou si on veut changer le risque des apparentés, là, on a besoin de ce test génétique. Parce que là, il n'y a pas d'autre moyen, ni biologique, ni biochimique, pour dépister les frères et sœurs qui sont porteurs. Et donc, la vie change surtout quand on ne regarde que cette famille-là. S'il n'y a pas d'histoire familiale, je vous ai dit le chiffre, il y a un risque sur 3000 que votre enfant ait la mucoviscidose. Si votre sœur a un enfant avec un patient mucoviscidose, votre risque va augmenter. Je ne sais pas si vous faites le calcul. Normalement, ce couple-là a une chance sur deux, parce que les deux parents ont chacun un risque de 1 sur 30, fois 1 sur 30 qui soit porteur en même temps, fois 1 sur 4 qui donne le même gène au même moment. Maintenant, le risque de la femme ou du frère de la mère du patient a monté de 1 sur 3 à 1 sur 30 à 1 sur 2. Puisque son frère ou sa sœur est porteur, son risque est élevé. Mais si on n'a pas le test moléculaire, on ne peut pas dire si elle est porteuse, oui ou non. Donc c'est là qu'il y a l'intérêt de l'analyse génétique pour faire le dépistage. Et même chose pour sa conjointe qui, elle, sort de la population générale et pour laquelle on peut passer d'un risque a priori de 1 sur 30 à 1 sur 1. Je vais vous le faire avec ce petit calcul-là. Donc voilà, on va maintenant... Si on essaye d'utiliser ces tests qu'on pourrait utiliser dans les familles, si on les lance dans la population générale, on va prendre un test qui est bon marché. Ça veut dire que c'est un test qui n'est pas parfait. Par exemple, un test qui est suffisamment bon marché, mais qui ne couvre que 90% des mutations. Donc ça veut dire qu'on va trouver 9 sur 10 des porteurs avec ce test-là. Si on teste un couple... Et tous les deux sont positifs. C'est la première ligne, plus. Ça veut dire que ce couple-là a une chance de 1 sur 4 d'avoir un enfant avec la mucoviscidose. La bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais la nouvelle, c'est qu'avec le même test, on va pouvoir offrir un test prénatal si ce couple le veut. Donc on peut faire quelque chose, on les a identifiés et on a une solution. Il y a des questions éthiques, religieuses et tout ça, mais on peut le faire. S'il y a un des deux qui est positif, mais pas l'autre, le risque ne tombe pas à zéro parce qu'on a un test qui n'est pas parfait. Donc, on réduit le risque pour le couple, mais le risque maintenant est de 1 sur 1200. Donc là, on a testé toute une population pour dire à une partie de cette population que leur risque n'a pas diminué, au contraire, leur risque a augmenté de 1 sur 3000, a priori, à 1 sur 1200. Et on ne peut rien faire parce que le test ne peut pas dire si la femme, oui ou non, est porteuse, sauf si je prends recours à un test qui me mène à 99%, à 99% de détection, qui sera plus cher. D'accord ? Ou bien on a le cas négatif, où on dit voilà, négatif dans un cas, négatif dans l'autre cas, vous avez une alésie, il n'y a pas de risque. 1 sur 360 000, ça fait dire qu'une fois tous les 3 ans, il va y avoir un enfant muco né chez un couple où on a dit n'ayez pas peur, il n'y a pas de risque, à cause des limites du test. Et même pas une erreur du laboratoire, parce que ça, c'est autre chose. Donc voilà l'autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser ça plutôt que le dépistage du cancer? Je vous pose la question, c'est le même fric, on ne peut l'utiliser qu'une fois, d'accord? Et là, je peux vous dire que depuis des années, on discute sur le dépistage de la mucoviscidose, il y a des régions qui le font, il y a des régions qui ne le font pas, il y a des pays où ça se met en place, et il y en a d'autres où on dit, mais ce n'est pas faisable. À vous de décider. Mais, comme je vous ai dit, les kits sont là, les tests sont disponibles, on pourrait le faire côté technique. Là, je passe au budget, parce que c'est grâce à Marc qu'on sort un peu de son laboratoire et qu'on commence à dire, ben, au lieu de rester dans mon petit coin, là, je veux quand même savoir ce qui se passe autour de moi et comment on fait. Et donc, je vais vous présenter très brièvement la situation de la génétique en Belgique. En Belgique, on a un système qui est assez bien, je peux le dire. D'abord, on a un système social public. Ce n'est pas un système socialiste, c'est un système social, comme chez vous. C'est-à-dire, il y a un système public de santé où tout le monde a accès. Et je ne fais pas de position politique, là, mais j'essaie de défendre ce système. Et j'espère qu'on va maintenir ce système, au moins en France, en Belgique, même si dans d'autres pays européens, il est en train c'est presque le débâcle. Soit, je ne fais pas de la politique là. Et puis au niveau des soins ou des centres génétiques, en Belgique, depuis plus de 30 ans, on a 8 centres de génétique. Donc toutes les consultations de génétique se font dans ces centres-là. Tous les tests de génétique se font dans les laboratoires associés à ces centres-là. Donc finalement, on a des 8 centres. Et pourquoi 8? Parce que ça doit être divisible en deux. Tout en Belgique doit être 4 en Flandre, 4 en Wallonie, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est encore pire que ça, parce qu'on pourrait faire avec moins que ça, mais encore les catholiques, les non-catholiques, et ça, c'est ça l'histoire de la Belgique. Mais chaque centre fait la combinaison consultation génétique, laboratoire de diagnostic, laboratoire de recherche, et en fait, les financements tournent autour de là, on a des fonds de recherche, on a des fonds support national pour la prévention, et puis on a le remboursement des tests génétiques à la pièce, disons, à l'activité. Donc voilà, je vous introduis la Belgique avec 3 centres qui sont situés sur Bruxelles, 2 centres francophones et 1 centre flamand. Il y a Leuven, il y a Antwerpen, il y a Ghent dans le nord, et puis il y a Gosselies et Liège dans le sud. Gosselies, c'est le seul centre génétique avec un aéroport sur son parking. C'est tout proche de Charleroi South, notre aéroport. C'est une anomalie. C'est le seul centre qui n'est pas lié à une université, puisqu'il n'y a que 3 universités en Wallonie. Et donc, ils ont créé un 4e centre pour avoir cette unité de... C'est la politique. Et je vous introduis notre nouveau roi qui est roi depuis l'année dernière. Et même, j'ai encore du mal à me rappeler de son nom, c'est Philippe. Là aussi, c'est bien parce que Philippe, ça s'écrit en flamand et en français différemment. Donc, il signe du côté flamand du moniteur national, il fait Philippe avec un F. Et du côté francophone, il fait Philippe avec le PH. Donc, voilà notre nouveau roi. Soit, je ne suis pas trop royaliste, ça va. Donc, au niveau des remboursements, comme je vous l'ai dit, le remboursement est fait au test. Ça veut dire que si on pousse le nombre de tests, on gagne plus d'argent en tant que centre génétique. Ce qui est bien. Sauf que le ministère a dit non, non, on va mettre une enveloppe, on ne peut pas continuer à faire ça. Et en fait, on a eu la chance que chaque activité a été remboursée depuis les années 80 à l'unité. Donc, on ne devait pas attendre en Belgique qu'un test rentre dans la nomenclature. C'est le centre de génétique qui déclarait le nombre de tests génétiques. Si un gène était identifié aujourd'hui, je pouvais offrir le test demain et il était remboursé. Pas de misère de nomenclature et tout ça. C'était dans le budget, c'était dans l'enveloppe, ce qui a vraiment, qui nous a permis d'offrir n'importe quel test. On a changé ça depuis l'année dernière. Ça nous a pris 10 ans. Pour dire on va faire un système un peu stratifié quand même, où les tests les plus élaborés sont remboursés à un montant un peu plus haut que les tests simples. Parce que sinon, ça donne trop envie de faire des tests simples pour un remboursement qui est le même que pour le test élevé. Donc par exemple, jusqu'à l'année dernière, un test mucoviscidose en Belgique était remboursé au même prix que le test cancer du sein. Personne ne nous en voulait de faire du cancer du sein à 300 euros. Les gens nous disaient, mais vous faites des simples PCR à 300 euros, c'est quand même un peu exagéré. Oui, mais on balançait au sein du laboratoire, puisqu'il n'y avait pas d'activité commerciale là-dedans. Soit. Donc on l'a changé et ça marche bien. Et voilà ce que j'ai retiré comme chiffre. Ça, c'est le budget national de la génétique en Belgique depuis 1996 jusqu'à il y a 2 ans. Et vous voyez qu'avec la nouvelle nomenclature et avec le fait que le ministère a dit on va mettre une enveloppe, qu'on a réussi à niveler, même si on est dans un domaine qui est nouveau. Évidemment, il y a plus de tests génétiques maintenant qu'il y a 20 ans. Je sais que les biologistes nous en veulent parce que notre budget augmente, mais c'est un nouveau domaine. Comment veux-tu de ne pas avoir des budgets qui montent? Ça s'appelle la jalousie, c'est simple. Donc voilà, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail du remboursement, sauf, comme je vous l'ai dit, que comme c'est stratifié, il y a moins de remboursement pour les tests simples comme la mucoviscidose, mais on a maintenant, depuis l'année dernière, un remboursement raisonnable pour un cancer du sein. Donc moi, je gagne 1377 euros par analyse BRCA1, BRCA2. Et je vous avoue que c'est plus que ce que ça nous coûte au sein du laboratoire, mais on l'a fait pendant des années en déficit. Bref, le budget national en Belgique est de 40 millions pour une population d'à peu près 11 millions de Belges pour tout ce qui est génétique, que ce soit consultation, test, et pas la recherche, mais tout ce qui est génétique clinique. Donc je trouve qu'on fait assez bien pour 4 euros par an par inhabitant. Donc il y en a qui nous battent en ce qu'ils offrent, mais pour le prix d'un hamburger et un coca, tu fais de la génétique à un niveau national. Je trouve que c'est assez simple, assez économique, assez raisonnable. C'est pour ça qu'on ne conduit pas les poches dans notre domaine, mais ce n'est pas ça l'issue. Voilà, 4 euros par personne. Je ne sais pas quel serait le montant en France, mais ce n'est pas énorme, 4 euros par an. Hein. Ça me fait 2 tickets aller-retour dans votre métro et c'est fichu. Hein. D'accord. OK, donc je passe au petit calcul. Où sont les problèmes? Ben, je vous montre encore les chiffres de Leuven, où là, on avait testé 3000 familles et qu'on a un dépistage d'à peu près 12 à 13% de cas positifs. Donc, en choisissant les familles, en sélectionnant et en refusant des tests, on fait des dépistages dans 12% des cas. Ça veut dire qu'il y a des familles qu'on a laissé tomber, qui ont des mutations qu'on n'a pas testées parce qu'on met cette sélection là-dessus. Donc si là, les gens veulent pousser en disant « mais moi, je veux être testé malgré le fait que je fais pas partie, j'ai pas une grande famille », il va y avoir une pression pour tester davantage. Et les gens vont insister, et si une boîte privée se met là-dessus, elle va tester tout le monde. Parce que finalement, si la fréquence dans la population générale est de 1 sur 250, on va dire ben, « on va trouver ce 1 sur 250 ». Si on veut trouver tout le monde, on va séquencer tout le monde. Donc ça, c'est un aspect, ça pousse. Il y a une personne qui est assez fabuleuse, qui nous a... Je pense qu'elle a fait plus pour le dépistage du cancer BRC1, BRC2, que toute activité nationale des plans cancer et tout ça. Depuis qu'Angelina Jolie est passée dans les nouvelles l'année dernière, on a vu doubler le nombre de demandes pour des analyses de cancer du sein. Je spécifie le nombre de demandes de consultation, et c'est encore les médecins qui disent « vous oui, vous non ». Mais au moins, les gens viennent pour voir s'ils sont à risque. Il y en a qui n'ont pas de risque du tout, qui sont des faux patients ou qui ont peur. Il y en a qui sont dépistés et où on trouve les mutations. Donc voilà un effet qui a un impact sur le budget. Et puis finalement, comme Myriad, il y a la boîte privée qui pousse pour que tout le monde se fasse tester. Et surtout aux États-Unis, il y a des campagnes dans les journaux, à la radio et à la télé, pour que les gens prennent le test Myriad pour BRC1, BRC2. Donc ça nous pousse de faire plus dans ce domaine cancer, au défi d'autres domaines. Et en plus, maintenant, on s'était limité dans les cas familiaux. Maintenant, il y a encore un autre aspect qui s'ajoute à ça, c'est que pour certains traitements, on va devoir regarder la tumeur d'abord. Donc, c'est vrai que pour les inhibiteurs du PARP1, ces inhibiteurs, si on les ajoute au traitement classique, le traitement est plus efficace, mais que dans les cas BRC1, BRCA2. Donc maintenant, c'est les oncologues qui nous demandent de faire du dépistage BRC1, BRCA2 sur des tumeurs ou sur des personnes avec des tumeurs afin de pouvoir leur prescrire des inhibiteurs PARP1 prochainement. Ce n'est pas encore dans la clinique, mais les études sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que si on fait une inhibition de PARP1 dans des cellules qui sont déjà déficientes en BRC1 ou en BRCA2, on augmente la chance que la tumeur soit éliminée. Donc il y a des bonnes raisons derrière, mais ça pousse encore le nombre de tests qu'on va faire au sein du laboratoire. Et c'est là que j'ai fait le petit calcul. Maintenant, en Belgique, par an, tous les centres génétiques ensemble font à peu près 2000 cas familiaux par an, à un remboursement de pratiquement 1500 euros. Ça nous fait 3 millions sur ce budget de 40 millions d'euros. 3 millions qui vont au cancer du sein. Et le reste est réservé à la mucoviscidose et les 3000 autres maladies. Si on dit non, on va tester toutes les femmes avec un cancer du sein, même si on diminue un peu le prix, puisqu'on sera ce sera un meilleur marché si on fait un peu plus, ça va vite prendre un quart de ce budget. Et si on dit non, toutes les femmes ont droit à ce test, même si on fait encore le test moins cher, puisqu'on fera des hauts débits, que ce soit 800 ou 500 euros la pièce, on va dépenser tout ce budget. Donc on peut facilement dépenser tout le budget de la génétique moléculaire en Belgique sur deux gènes, cancer BRC1, BRC2. C'est pas moi qui dois faire le choix, c'est la politique et c'est le public qui doit faire ce choix-là, à mon avis. Et les chiffres sont, on peut diminuer jusqu'à 200 euros, on verra bien, mais le problème est là. Donc voilà, est-ce qu'il y a une solution? On peut discuter là-dessus, on peut dire on va choisir entre cancer du sein et mucoviscidose, ou bien on attend encore un peu que le temps passe et que la situation soit différente. Et ça, c'est la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est l'idée que si on séquençait le génome de tout le monde à la naissance, on saura à l'avance, d'accord? Donc pour chacun, on prend toutes les recettes, on fait la lecture du génome entier et on saura à l'avance qui a une mutation BRC1, BRC2 et pas seulement ces deux gènes-là. On saura tout sur les autres gènes candidats, on saura tout sur les cardiologies, les problèmes cardiaques, les problèmes diabète et tout le bazar. C'est vrai que vous le savez aussi bien que moi, là il y a eu une telle révolution technologique en 2006-2007. Il est possible maintenant de séquencer le génome entier d'une personne. Quelque chose qui était imprévisible et pas prévu dans les années 2000. Depuis 2005, les machines existent pour faire du séquençage complet d'un génome. Et en moins de 5 ans, donc entre cette publication-là, c'était Jim Watson qu'ils ont séquencé, celui de Watson et Crick. Il est assez fou pour se faire séquencer. Il est fou. Tu l'as vu récemment? Mais il est carrément fou. Hein. Non, soit. Mais soit.
C'est prévu dans son génome?
Oui, je crois. Non, non, mais c'était une bonne idée là, de la part de la compagnie qui était derrière les séquenceurs de choisir James Watson. Et on a appris un tas de choses en séquençant une personne ou le génome entier d'une personne. Donc, côté technique, c'est possible. Et en moins de 5 ans, le prix a été réduit de façon spectaculaire. Donc, si on séquençait un gène dans les années 2000, par exemple le gène MUCO dans les années 2000, on le séquençait à 700 euros la pièce. Maintenant, ce gène-là, il va me coûter 1 euro sur les nouvelles machines. La machine qui est ici en bas, c'est celle qu'on a utilisée pour séquencer le génome de Jim Watson. Dans ce cas-là, ça a coûté 5 millions pour séquencer un homme. Mais avec les nouvelles technologies, maintenant, les prix ont baissé jusqu'à 1 ou 2 000 euros. Là, il faut faire attention parce que 1 000 euros, ce serait le coût technique sans aucune interprétation. Donc, n'exagérez pas. Côté commercial, on vous séquence le génome à 10 000 dollars. On vous donne la séquence interprétée de votre génome. Le problème là, que c'est pour avoir 1 euro par gène, il faut séquencer tout le génome. Donc, tu as toujours ton génome à 20 000 euros, sauf que tu as tous les gènes. Donc, il n'y a pas moyen de dire, voilà, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre 1 million de personnes sur cette machine-là pour un gène et on aura fait pour 1 million, 1 million de dépistages. Les deux, ça va aller dans les deux sens, mais je veux dire, ce n'est pas si simple que ça de dire, voilà, ça me coûte 1 euro, pourquoi pas séquencer tout le monde à 1 euro la pièce. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Évidemment, il y a tous ces problèmes d'interprétation. On peut lire un génome, mais on ne va pas le comprendre. Donc, mais passons, ça va nous prendre quelques années, et dans 5 ans, je pense que ça vaut la peine aujourd'hui d'essayer de savoir où on sera dans 5 ans. Donc, on aura tout résolu dans 5 ans. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les quelques études qui ont été menées récemment, où on a effectivement pris pas des patients, mais des contrôles, c'est-à-dire des gens issus d'une population. Ici, ce n'était pas des contrôles purs et durs, mais c'était une étude pour l'athérosclérose, où on a séquencé plus de 500 personnes, et on a réutilisé la même étude pour voir combien de mutations dans le gène cancer on pourra dépister. Et la conclusion est simple, sur 572 cas, il y a 7 porteurs d'une mutation BRCA1, BRCA2, et juste par hasard, parmi ces 7, 4 étaient des juifs ashkénazis, où on sait qu'il y a des mutations fondatrices. C'est fondatrice? Parce que c'est un groupe qui a été sélectionné aux alentours de Washington et Bethesda. Donc, ce n'est pas la population moyenne qu'ils ont attirée pour cette étude-là. De ce fait-là, je pense qu'il y a un peu plus de mutations ashkénazies. Et ils ont dépisté, eux, une autre mutation pour une tumeur neuroendocrinienne, donc le SDHC. Donc, voilà les vrais chiffres. Donc, si on commençait à faire le séquençage chez n'importe qui, on trouverait ces mutations, évidemment. Le détail des mutations, donc 2 mutations BRCA1, 5 mutations BRCA2, c'est le détail. Il y a eu 2 autres études récemment où les gens ont séquencé à peu près 1 000 volontaires. 2 publications, je ne vais pas prendre la deuxième parce que le mot personalized est dedans et j'ai horreur, je vous l'ai dit. Donc je prends que la première étude où ils ont séquencé 1 000 volontaires. Et sur ces 1 000, il y en a 23 personnes qui ont une mutation soit dans un gène dont on sait qu'il confère un risque élevé pour le cancer, donc BRCA1, BRCA2, mais aussi les gènes du cancer du côlon et d'autres, et les gènes en cardiologie, donc les hypertrophies cardiaques et les anomalies de LQT. Parce que là aussi, on dit que ce sont des gènes dont on sait qui a un risque élevé et qui sont ce qu'on appelle actionable. On peut faire quelque chose. Donc voilà, le chiffre, c'est 23 sur 1 000. Il y en a qui disent, mais c'est beaucoup. Il y en a qui disent, non, c'est pas beaucoup. Au début, on nous avait dit que chacun de nous a quelque chose dans son génome. Oui, sans doute, mais des choses qu'on ne comprend pas encore. Du côté actionable, à l'heure actuelle, il y a à peu près 25 sur 1000 personnes où on trouve quelque chose qui pourrait mener à une action préventive immédiate. Donc voilà, je vous laisse le choix. Il y a des compagnies qui veulent le faire pour vous, à condition que vous payiez. Le problème, est-ce que l'État est prêt à offrir ce genre de service? Il y a peu de pays, je ne pense pas qu'il y ait déjà des pays où le génome, où l'analyse d'un génome, même dans les maladies rares, soit remboursée. On en est proche en Belgique, on en est loin en France. Ils sont en train de chipoter un peu en Hollande. Et puis, ils vont séquencer 100 000 patients en Angleterre. Et tout le reste va le payer de sa poche pour l'instant. Donc voilà mes questions pour finir. Je ne sais pas si j'ai pris trop de temps, mais est-ce qu'on va séquencer tout le monde pour aller vers... S'il y a des problèmes à résoudre, on attend et on fonce et on prend une nouvelle solution plutôt que de rester dans le débat cancer versus muco. On fera tout. Est-ce la médecine personnalisée, est-ce la façon ultime ou parfaite de faire de la prévention? Est-ce de séquencer tous ces gènes, tous ces génomes? Qui va le faire et qui va le payer? C'est pour ça que je sortais de mon laboratoire, vous communiquer tout ça. Et je vous remercie, et je remercie mon équipe aussi, parce que pendant que je suis là, c'est eux qui bossent. Merci. Merci.